J'ai quelques mots à vous dire d'introduction à cette rencontre. D'abord, vous souhaitez la bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir au nom de l'association Travail et Culture pour cette journée consacrée à écrire et dire le travail. D'abord, quelques remerciements adressés à nos partenaires qui rendent possible cette journée. Évidemment, Culture Commune, Laurent Coutouli et toute son équipe qui nous font un accueil chaleureux, professionnel évidemment, mais et très confortable. Remercier particulièrement Fanny Prudhomme, Anaïs Vincent pour leur accueil et l'accompagnement dans l'accueil, et Jean-Pierre Courtois et toute l'équipe technique de Culture Commune qui nous permettent et la lumière et le son et même l'enregistrement, mais j'y reviendrai à la fin de mon propos dans les petits détails techniques à vous glisser. Deux mots peut-être sur la rencontre. Cette rencontre, en fait, elle est la quatrième rencontre d'un cycle de rencontres sur culture, art et travail. Cycle commencé en 2017 au Musée des Arts et Métiers par une rencontre d'ouverture qui s'est poursuivie en 2019 par une seconde rencontre en partenariat avec le Festival d'Avignon sur comment le théâtre est représenté sur les scènes de théâtre aujourd'hui, comment le travail, pardon, est représenté sur les scènes de théâtre aujourd'hui. Et en partenariat avec une association formidable aussi, c'était à Avignon, qui s'appelle Théâtre et Monde du Travail. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller les découvrir. Ils font un travail complètement bénévole et militant sur une recherche sur ce que font les hommes et les femmes de théâtre sur le travail aujourd'hui. Et cette deuxième rencontre a été prolongée par une troisième à Grenoble sur le cinéma et le travail, avec un partenariat différent. Là, ce n'était pas le Festival d'Avignon, c'était avec un festival qui s'appelle Écran Total, Donc, ce festival Écran Total, il est formidable, il est à Grenoble, c'est un festival qui se passe en Isère, c'est sur le cinéma. Et ça a pour particularité d'être développé par un collectif de comités d'entreprise, de comités socio-économiques, une vingtaine de comités d'entreprise de l'Isère qui font ça depuis 20 ans. Et je me disais que souvent, et il y a des représentants de comités d'entreprise dans la salle, que je salue, on dit souvent que les comités d'entreprise sont pris dans le consumérisme, dans la consommation, etc. Et ben, il faut regarder aussi ailleurs, il faut regarder ceux qui font des choses, et ceux-là font des choses magnifiques. Voilà, c'est dit. Ces rencontres font partie d'une dynamique, la dynamique d'une plateforme qui s'appelle Culture, Art et Travail, qui est une plateforme numérique de ressources, alors, qui a été initiée en 2017 également et qui est accompagnée par le ministère de la Culture depuis ce temps-là. Ministère qui doit être là normalement aujourd'hui, mais le ministère est sûrement coincé dans les embouteillages du matin. Quand je dis que le ministère arrive, il arrive, c'est formidable. Et donc, il est représenté par sa meilleure partie, Franck Guillaumet, qui s'occupe depuis maintenant quelques années de cette difficile, complexe et magnifique question de la culture du travail au sein du ministère, avec pugnacité et courage. Bienvenue à Franck Guillaumet. Et je voulais également, de remercier au passage nos partenaires de l'AR2L. Alors l'AR2L, c'est l'Agence régionale du livre et la lecture Hauts-de-France. Ils font un travail formidable toute l'année. Donc remercier François Annick, son directeur, et surtout Florence Flamme, qui est chargée des publics et qui nous a accompagnés dans l'organisation de cette rencontre. Florence, qui est là-bas. Bonjour Florence. Et remercier également mon camarade de jeu et compagnon de route, Jean-Pierre Burdin, qui nous accompagne dans cette belle aventure de ces rencontres nationales et de cette plateforme. Donc, je vous disais, la plateforme Culture à Travail, c'est une plateforme de ressources que vous pouvez retrouver sur notre site internet. À quoi elle sert? Elle sert à faire circuler de l'information, de la connaissance et de la reconnaissance sur ce que font des acteurs au niveau national sur cette thématique Culture à Travail. C'est assez important parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font et beaucoup de choses qui ne se savent pas. Et donc cette plateforme permet de faire circuler cette information. Elle est développée, elle est hébergée sur notre site internet travailculture.org. Et vous pouvez retrouver dans cette plateforme un espace numérique sous forme d'un agenda éditorialisé d'initiatives qui se prennent un peu partout en France sur cette question-là. Expositions, films, conférences scientifiques, évidemment pièces de théâtre. Adossé à cet agenda, on a une revue de presse qui éditorialise un certain nombre d'articles de presse sur cette même question, un espace documentaire où vous pouvez retrouver les dernières acquisitions de notre centre de documentation sur cette thématique-là, et un espace art et travail où on retrouve des œuvres d'art disponibles sur cette question-là, tous médiums confondus, et enfin un espace qui s'appelle le réseau et les rencontres. Pourquoi le réseau ? Parce qu'au début, en 2017, il y avait 7 membres de ce réseau, donc des acteurs qui développent des choses sur cet axe culture art travail un peu partout en France, des acteurs de taille, d'échelle différentes, ça peut être des institutions, des associations, des structures militantes. Il n'y a pas de hiérarchie en fait, ce qui compte c'est le sujet culture art travail. Et donc aujourd'hui ces acteurs sont 31, on est 31 je crois membres de ce réseau, et adossé à ce réseau on organise ces rencontres annuelles dont vous pouvez retrouver les synthèses écrites sur cet espace. Donc, parce qu'on a la prétention, à notre modeste échelle, de produire de la connaissance sur ce champ culture art travail. Je crois que je vous ai tout dit. Avant de commencer, écrire et dire le travail pour aujourd'hui, donc cette rencontre d'aujourd'hui, elle a pour objet d'explorer cette question, la façon dont l'écriture en général, pas seulement la littérature, s'empare de cette question du travail. Elle se déroule en plusieurs temps, en fait, en 6 séquences, je les ai un peu comptées comme ça, 6 séquences distinctes. Une première séquence qui est une séquence un peu explosée, en tout cas éclatée sur l'ensemble de la manifestation, puisque ce sont des lectures, en fait, de textes. On a tenu à ce que les mots, les phrases, les textes des auteurs, des autrices, des intervenants et des intervenantes d'aujourd'hui, mais pas seulement, puissent être entendus. Donc on a demandé aux auteurs, aux autrices, aux intervenants et intervenantes de chaque table ronde de nous livrer un certain nombre de textes de leur production qui vont être lus au début de chaque table ronde. La seule exception à cette règle est la première lecture, en fait, puisque j'ai demandé à Thierry Bechtingel, qui va ouvrir les rencontres tout à l'heure, de sélectionner des œuvres qui ne sont pas de sa production, mais qui sont des œuvres d'autres auteurs et autrices en littérature. Ces lectures sont le fruit du travail outre de leurs auteurs et de leurs autrices, sont aussi le travail, évidemment, du metteur en scène et comédien, metteuse en scène et comédienne, Marie Philippi de la compagnie L'Ouvrier du Drame et Antoine Suarez-Pazo de la compagnie Les Bourgeois de Kiev, qui ont fait un travail de montage et de mise au plateau de ces textes. Donc on va leur laisser la place. Pas plus tard que dans quelques secondes, une fois que j'aurai fini mon trop long discours d'introduction. Les petits détails techniques, je pense que j'ai rien oublié. Si, de remercier Tara Lénard, qui va animer les deux tables rondes, celle d'ouverture et celle de fermeture, la première table ronde et la deuxième table ronde. Tara, qui est journaliste et consultante littéraire, la table ronde du milieu sera animée par votre serviteur d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire moi-même. Pour finir, on finira la journée à 19h, on accueillera aussi un public différent, avec le travail de Philippe Durand, qui nous a fait le plaisir et l'amitié d'être là aujourd'hui, qui intervient dans la deuxième table ronde et qui présentera son spectacle Larzac. C'est presque une avant-première, mais pas tout à fait, parce que le spectacle a déjà commencé à tourner, il commence à bien fonctionner. Qui est l'aventure extraordinaire de cette coopérative agricole du Larzac. Ça ne raconte pas la lutte du Larzac, ça raconte la lutte du travail, finalement, sur le plateau du Larzac à travers cette coopérative. Donc, restez jusqu'à 19h, c'est un spectacle formidable. Philippe avait été notamment l'auteur de 1336 Paroles de Fralib, qui a raconté une autre épopée ouvrière réussie. C'est suffisamment rare pour être dit aujourd'hui, réussie celle-là. Donc, restez jusqu'à 19h. Quelques points techniques à vous dire. La rencontre est enregistrée, donc n'hésitez pas à parler dans les micros, autant les intervenants et intervenantes que les participants participantes. Ce n'est pas seulement pour vous entendre, c'est pour qu'on ait une trace en fait, des enregistrements, qu'on puisse faire une synthèse. Il y a un garçon qui s'appelle Rémi, de la Fractale, qui a une caméra et qui va filmer une partie des échanges. Ça ne sera pas une extenso, c'est pour faire un contenu vidéo d'une quinzaine de minutes qui résumera en fait, l'essentiel de la rencontre. Pour les intervenants et intervenantes, c'est déjà réglé. On sait ceux qui veulent être filmés, ceux qui ne veulent pas être filmés. Dans les participants, si vous ne souhaitez pas être filmés, dites-le. On vous le promet, vous ne serez pas retenu au montage. Aucun souci. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée de travail.
Merci Nicolas. Bonjour à tous. Alors je vous remercie de m'avoir invité ici. Je vais essayer d'être... voilà, j'ai 40 minutes devant moi, donc je vais essayer de pas vous ennuyer de trop, bien entendu. J'ai oublié mes notes parce que j'oublie toujours quelque chose, mais bon, je me souviens quand même à peu près de ce que je dois dire. Je me suis aidé pour ça d'un PowerPoint. Et donc, mon intervention va porter sur le travail. Notre travail est un roman, c'est le titre que j'ai trouvé. Alors, ce titre-là, finalement, voilà, Notre travail est un roman. Donc là, vous voyez le romancier aux affres de sa création, qui tombe comme ça du ciel, et qui voilà, c'est une image, une représentation du travail, et là, c'est le travail du romancier, entre guillemets. Alors, cette idée-là de titre, Notre travail est un roman, je l'ai honteusement pillé à un auteur qui s'appelle Sylvain Rossignol, que vous connaissez peut-être, qui a écrit dans les années, au début des années 2000, un livre qui s'appelle Notre usine est un roman. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, c'était un reportage qu'il a fait avec l'aide d'un comité d'entreprise sur une usine pharmaceutique qui allait fermer. Et donc, il a recueilli les témoignages des salariés. Il en a fait ce récit. Alors, ce qui est intéressant dans Notre usine est un roman, c'est d'abord le statut de l'auteur. C'est-à-dire l'auteur devient cette fois-ci enquêteur, mais en même temps, en quelque sorte, une sorte de travailleur social aussi, qui est là pour recueillir la parole des salariés. Donc, il y a d'abord ce premier point-là. Et ensuite, évidemment, le gros point, c'est de se dire, ben, quand on parle du travail, quand on parle de la représentation du travail, il faut savoir de quoi on parle. Donc, il faut soit enquêter, soit être au minimum renseigné. Et ça, c'est une constante qu'on va retrouver dans toutes les représentations du travail. Alors, je vais remonter avec un petit peu d'histoire pour savoir quelles sont les représentations du travail depuis les calendes grecques, justement. On va commencer avec Hésiode, qui a écrit Les Travaux et les Jours. Donc Hésiode, auteur du 8e siècle, je crois, avant Jésus-Christ. Donc on a ici son portrait un peu sévère, comme on le faisait à l'époque. Alors, Les Travaux et les Jours, qu'est-ce que c'est ? Ben, ça parle d'abord du travail agricole essentiellement, bien entendu, dans l'Antiquité. Mais ça parle surtout du travail des dieux, parce que ce sont les dieux qui fournissent le travail. Donc ce sont les épopées grecques qu'on connaissait à cette époque-là, avec ces dieux qui viennent là, qui viennent donner le travail aux hommes. Et donc, le travail va être vécu comme étant une sorte de bénédiction. Et j'insiste sur ce mot-là, et vous allez voir que ces mots vont revenir, c'est pas par religiosité, au contraire, c'est justement pour expliquer un peu comment les représentations du travail se sont constituées au fil des siècles. Donc on a voilà, cette première approche, ce sont les dieux qui apportent le travail aux hommes. On en a aussi un autre exemple, là c'est Le Laboureur et ses enfants, hein, de Jean de La Fontaine, où on est toujours en quelque sorte dans la bénédiction, c'est-à-dire que c'est le fameux le trésor qui est caché dans le champ, etc. Le travail, c'est une sorte d'entité dans cette représentation-là qui est un peu à part, voilà, c'est un peu magique, et l'homme s'en sert, voilà, c'est vraiment une bénédiction, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Et le travail, c'est une sorte de don divin, évidemment. Mais c'est surtout, c'est important parce que il y a évidemment des prolongations politiques. On pense aussi, par exemple, à Louis XIV, qui est le monarque de droit divin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est incontestable. Et ce qu'il y a d'incontestable, c'est d'abord, bien entendu, la bénédiction du travail, etc. Mais c'est surtout la remise en cause de la façon dont on peut travailler. C'est ça qui est intéressant. Alors, bien entendu, si on reste dans ce domaine-là, bah, qui dit bénédiction, bah, dit évidemment malédiction. Et qu'est-ce que c'est que cette malédiction-là ? Bah, elle apparaît, c'est la condition de l'humain au travail, avec la dureté de la besogne. Bon, elle apparaît très rapidement. Bon, dès le Moyen-Âge, on voit, vous retrouvez évidemment le servage. Alors, dans la littérature, par exemple, on a Chrétien de Troyes qui commence à parler du travail des tisserandes. Donc là, on a une petite gravure qui représente Chrétien de Troyes. Et donc ça, c'est intéressant parce que lui, il en parle justement avec il plaint le dur travail des tisserandes. Donc cette fois-ci, on est dans le côté qui est un peu plus une représentation. On se dit, oui, mais attention, on est plus, c'est bien de parler du travail comme étant une bénédiction, mais il y a aussi les conditions de travail. Donc vous voyez que le travail traverse véritablement l'ensemble des siècles et l'ensemble de notre histoire. Et puis évidemment, qui dit malédiction dit rédemption. Voilà, donc parce que bien entendu, on a cette bénédiction, le côté on ira tous au paradis des travailleurs, si on peut dire. On a aussi le côté la malédiction, donc on ira tous aussi dans l'enfer des travailleurs, mais aussi on a cette idée qu'il pourrait exister une sorte de purgatoire. Alors, la malédiction, c'est pas un vain mot, hein, parce que vous savez que dans les sept péchés capitaux, il y a la paresse. La paresse, c'est justement, c'est aller à l'encontre du travail. Donc vous voyez que ce sont des questions qui traversent à la fois l'histoire de la représentation du travail, mais notre propre histoire aussi à nous. Et elle va rester, vous allez voir que ce triptyque bénédiction, malédiction, rédemption reste encore fortement implanté dans nos représentations. Alors, la rédemption, bah, c'est simple, le purgatoire, si on pourrait dire, ou l'idée de se dire, finalement, l'homme y est peut-être, on va laisser Dieu de côté, et puis peut-être que l'homme a sa part pour pouvoir, en quelque sorte, s'accomplir par le travail. Et là, on a le siècle des Lumières, et on a notamment l'encyclopédie de Diderot, avec ses planches qui sont magnifiques. Alors bon, pour moi, c'est facile, je suis originaire de Langres, donc je connais bien Diderot. J'ai aussi eu l'occasion à la bibliothèque de Langres, enfin à la médiathèque de Langres, de voir des exemplaires originaux, et notamment ces gravures qui sont magnifiques et qui représentent le travail humain. Alors ça, c'est très très intéressant, parce que au siècle des Lumières, quand Diderot présente cette façon de raconter le travail, c'est ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voit à travers ces planches ? On voit un travail d'équipe. On voit toute l'ingéniosité des hommes, cette espèce d'étau pour tenir le tronc d'arbre qu'on est en train de scier. Vous voyez ici la finesse des planches qui vont être, des feuillets qui vont être découpés. Donc tout ça, il le présente. Et en quelque sorte, ça va effectivement, ce qui était un peu l'esprit du siècle des Lumières, ça va à l'encontre de se dire que tout vient, le monarque est de droit divin peut-être, mais l'homme a beaucoup sa part, évidemment, dans cette élaboration. Et donc là, on a un autre exemple de planche. Voilà, là, c'est le tapissier avec tous les outils utilisés pour la tapisserie. On en a aussi encore un autre, là, avec une grande roue. Donc, vous voyez, tout ça, c'est quelque chose qui représente le travail. On se dit, tiens, ça, c'est intéressant. Ça, c'est... l'homme a véritablement sa part. Et voilà le portrait de Diderot. Alors, on va faire un saut un petit peu dans le monde, enfin dans le temps. On arrive directement au 19e siècle. Hein, donc, on est passé au 17e, voilà, donc siècle des Lumières. On arrive maintenant dans l'industrialisation, dans justement ce que Diderot avait pressenti, c'est-à-dire une ingéniosité toujours plus parfaite, et cette fois-ci, on arrive dans quelque chose qui est beaucoup plus construit, la révolution industrielle, etc. Et voilà, si je vous dis religion, opium du peuple, ou alors exploitation de l'homme par l'homme, ben vous pensez évidemment à Karl Marx. Et donc, on est effectivement cette fois-ci dans un regard qui est un peu plus politique, qui va commencer à se politiser à ce moment-là, à partir du travail et à partir des conditions de travail. Parce que plus, évidemment, l'ingéniosité des hommes avance, ben plus la malédiction, en quelque sorte, ou plus cette façon d'organiser le travail devient importante, et souvent, ce sont les salariés, enfin à l'époque plutôt les travailleurs, qui en font les frais. Et donc cette fois-ci, Karl Marx, il nous dit, ben, en gros, c'est bien beau d'avoir considéré que le travail, c'était une sorte de bénédiction, mais en fait, non, c'est véritablement l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc, on met de côté, cette fois-ci, le côté religieux. Alors, chez nous, en France, qu'est-ce qui se passe au 19e? Eh bien, on pense évidemment à Zola. Donc, Zola, on a Germinal, on va avoir la bête humaine, et on a aussi le portrait de Zola. Donc, voilà, ce qu'il y a d'important dans Zola, c'est son approche, qui est son approche d'enquêteur. C'est-à-dire, c'est ce que je vous ai dit au début, on peut vraiment parler du travail que si on le connaît, que si on ne peut pas l'inventer. On ne peut pas inventer, on se dit, tiens, je vais parler, des tisserandes, alors que je ne connais rien du tout au métier des tisserandes, ce n'est pas possible. Ça ne le fera pas. Donc on est obligé de se renseigner et d'enquêter. Et ça a été un peu la spécialité de Zola en tant qu'enquêteur. Voilà donc un peu un panorama un peu rapide de cette histoire du travail. Mais en même temps, on continue à avancer dans l'histoire et puis on arrive au XXe siècle. Au XXe siècle, il se passe un certain nombre d'événements et notamment les guerres mondiales. Alors la Première Guerre mondiale, en quelque sorte, c'est presque l'ingéniosité du travail des hommes qui se retourne contre les hommes eux-mêmes. On fabrique des tanks, on fabrique des bombes, il y a des explosions, on détruit tout. C'est vraiment l'ingéniosité poussée à son paroxysme contre l'homme. Et ça, ça va évidemment provoquer un choc énorme. Et pour autant, les idées que Karl Marx avait données à son époque, c'est-à-dire l'exploitation de l'homme par l'homme, bien sûr, on va les retrouver. On va les retrouver après la Première Guerre mondiale, notamment avec la littérature prolétarienne. Donc là, vous avez le premier auteur, on pourrait dire, qui a été considéré comme étant un écrivain de cette littérature prolétarienne. C'est Eugène Dabi qui a écrit « L'Hôtel du Nord ». Alors moi, je tiens beaucoup à Eugène Dabi parce que ça a été le premier à recevoir le prix populiste, qui est devenu le prix... Alors populiste, pas au sens populiste, Marine Le Pen, etc., etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, pas au sens politique, mais c'est-à-dire que c'était le sens au sens populaire plutôt. Donc le prix populiste a été créé, Eugène Dabi l'a eu, et maintenant d'ailleurs le prix s'appelle le prix populiste et Eugène Dabi. D'ailleurs je suis très fier de l'avoir eu parce que Jean-Paul Sartre l'avait eu, parce que René Fallet, j'y tiens beaucoup, avait eu aussi ce prix, donc voilà, donc je suis très fier de l'avoir eu il y a quelques années. Donc, la littérature prolétarienne, ça tient surtout à un auteur principal qui est Henri Poulaille. Alors Henri Poulaille, c'est lui qui en quelque sorte a organisé cette littérature prolétarienne. Il avait organisé, c'est-à-dire donné un certain nombre de principes. C'était de se dire, finalement, pour parler du travail, il faut que ce soit les travailleurs qui en parlent. Et en même temps, c'est quelque chose, il était conscient de cette difficulté, parce que pour parler du travail, quand on est travailleur, comme il disait, quand l'ouvrier revient de chez lui après sa journée de labeur, même s'il est un peu cultivé, même s'il a envie de se mettre à écrire, et c'est difficile. C'est difficile et donc ça produit des fois des œuvres de moindre qualité ou qui sont beaucoup moins considérées. Mais c'était aussi une façon de lutter contre ces écrivains rentiers qui ont fleuri pendant le 19e siècle, c'était la grande majorité. Ça reste encore d'ailleurs une représentation très schématique d'ailleurs de la littérature française. Pensez par exemple à Jean d'Ormesson. Voilà, c'est vraiment le type même de l'écrivain rentier, si on peut dire. Voilà. Donc lui, voilà, c'est de se dire, il y a des gens qui travaillent et qui peuvent parler du travail. Ça, c'est intéressant. Je voulais saluer en même temps ici Michel Ragon, qui a écrit une histoire de la littérature prolétarienne, qui est magnifique. Saluer aussi sa mémoire, parce qu'il a disparu en 2020, donc à l'âge de 96 ans. Et il avait connu aussi Henri Poulaille. Alors, on va faire un saut. Alors, vous voyez qu'on avance beaucoup dans le temps quand même, jusqu'aux années 80. Mais avant d'arriver aux années 80, ben, il se passe un certain nombre d'événements entre la littérature prolétarienne qui fleurit dans les années 1930 et puis évidemment ce qui se passe après. Eh ben, c'est déjà la Deuxième Guerre mondiale. C'est déjà les camps de concentration. C'est ensuite tous les mouvements littéraires qui vont être ou plus ou moins empêchés. On connaît bien la fameuse phrase de comment on peut écrire après Auschwitz. Et aussi, ou alors, on se tourne vers d'autres préoccupations que le travail, en quelque sorte. Il y a l'existentialisme de Jean-Paul Sartre. Après, on va très rapidement se tourner vers le nouveau roman, où là, on va élaborer plus des théories littéraires. Quelle est la place du sujet dans un roman? Quelle est la place de la narration, etc., etc. Donc là, on s'éloigne un petit peu de ces préoccupations de thèmes, de ces préoccupations thématiques. On a aussi dans le monde universitaire le structuralisme qui apporte ici véritablement une sorte de chape vraiment sur l'université française pendant quelques années, pendant les années 60. Et puis arrive mai 68. Alors mai 68, c'est bien, il y a là, le travail reprend ses droits puisque en quelque sorte, il y a un certain nombre d'aspirations qui viennent à ce moment-là, qui se concrétise par les accords de Grenelle. Et là, on se dit, ben voilà, maintenant, il y a des aspirations nouvelles. On a envie que le travail change. On a envie que notre rapport au travail change. Et moi, quand j'ai commencé, j'ai fait une thèse de doctorat sur justement la représentation du travail depuis les 30 Glorieuses. Et je me suis dit, ben, à partir de mai 68, on va voir fleurir des livres sur le travail. Et ben pas tout de suite, en fait. Il faut attendre un petit peu de temps, il faut attendre justement les années 80 pour voir arriver les premiers textes de ceux qui ont participé en gros à cette élaboration politique des années 80, notamment les établis. Donc ces maoïstes qui venaient s'établir dans les usines. Et vous avez par exemple le premier d'entre eux à avoir écrit un livre sur le sujet, c'est Robert Linhart, dont la sœur est sociologue d'ailleurs, l'établi, donc, qui lui paraît en 78, voilà. Et qui raconte son travail d'établi à l'usine Citroën. Donc vous savez que les établis étaient là pour, en quelque sorte pour préparer la révolution, voilà, dans la classe ouvrière. Et puis vous avez aussi Leslie Kaplan, l'extrait que vous avez entendu, qui a été magnifiquement d'ailleurs restitué. C'est un livre qui est très poétique, l'Excès l'usine, fait de phrases courtes qui restituent très bien cette ambiance de l'usine de l'époque. Ce livre-là est paru en 1982 et Leslie Kaplan était aussi également établi. Et puis vous avez entendu aussi François Bon, sorti d'usine. Alors François Bon, lui, travaillait, il n'était pas établi, il a commencé à travailler à la suite de ses études. Il avait commencé un cursus pour terminer ingénieur arts et métiers, mais qu'il a abandonné en cours de route. Et il est devenu technicien dans l'industrie. Et donc, il raconte en quelque sorte, dans Sortie d'usine, ces pages. Quand vous l'entendez parler du Transpalette, c'est vraiment du vécu. On peut pas inventer ces histoires de roues qui font 100 mm comme on dit exactement dans l'industrie. Voilà, ça s'invente pas. Et en même temps, c'est très intéressant parce que vous voyez plusieurs façons de raconter, de se représenter et de raconter les récits. Vous avez d'un côté le récit très poétique de Leslie Kaplan sur l'usine et de l'autre côté, vous avez le récit qui est presque didactique de François Bon, comme si il vous prenait à témoin, il était en train de vous décrire le Transpalette. D'ailleurs, c'est vraiment ça, on a l'impression. Il est en train de vous faire l'article du Transpalette. Et puis, vous avez entendu aussi Annie Ernaux, parce que je voulais quand même rendre hommage à notre nouveau prix Nobel de littérature, qui, elle, évoque ses parents, qui étaient ouvriers à la base, et qui décident de devenir petits commerçants, donc qui prennent un fonds de commerce. Et la place, comme son nom l'indique, c'est aussi une histoire de déclassement ou de reclassement. C'est-à-dire que c'est à la fois ces petits ouvriers qui deviennent petits commerçants, donc qui augmentent de statut social, donc qui vont régaler la famille, vous imaginez. Donc c'est-à-dire que cette fois-ci, on est dans une... On change de point de vue, on n'est plus dans la peau des choses, dans la peau du travail, on est cette fois-ci plus dans une représentation qui est une représentation du statut du salarié, en quelque sorte. Donc cette fois-ci, c'est la place du travailleur. On devient ouvrier, on devient effectivement à ce moment-là petit commerçant, mais c'est aussi la place d'Annie Ernaux qui, elle, vient de terminer ses études. On est à cette époque-là en plein dans le rôle que devrait d'ailleurs toujours jouer l'éducation nationale, mais que j'ai l'impression qu'il joue moins, c'est-à-dire le rôle d'amener des personnes de classe populaire à des emplois qui sont un peu plus réservés, un peu plus supérieurs, enfin je veux dire sans évidemment notion de salaire d'ailleurs qu'autre chose. La place, c'est une façon de dire voilà, moi maintenant je suis arrivé en tant que prof, c'est-à-dire en tant que cadre, voilà. Et ça, c'est très intéressant parce que dans les représentations du travail, à partir des années 80, on va voir arriver un nouveau type de littérature avec des gens beaucoup plus instruits qui occupent des places de cadre et qui vont écrire sur les cadres. Et là, à cheval sur deux siècles, on va trouver d'un côté, en 1993, justement un livre de cadre, Michel Houellebecq. À mon avis, c'est le meilleur de Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte. Et ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que Michel Houellebecq, à cette époque-là, travaillait comme informaticien dans un ministère, il me semble. Et il a raconté, en quelque sorte, l'irruption de l'informatique dans le monde du travail. Et donc l'irruption de l'informatique, on n'est plus cette fois-ci dans des choses qui sont directement la peau du travail. C'est-à-dire on prend un transpalette, on prend un objet, on l'emmène. On commence à arriver dans l'immatériel donc que l'informatique justement nous apporte. Donc vous avez d'un côté extension du domaine de la lutte et de l'autre côté, donc 1993, en 2003, vous avez Aurélie Filippetti, qui a été ministre de la Culture, qui publie Les derniers jours de la classe ouvrière. Là, c'est aussi, comme pour Annie Ernaux, une histoire de positionnement de classe, puisque elle vient d'intégrer l'école normale supérieure. Et son père, son grand-père était italien, maire d'un petit village, militant communiste, et travaillait dans l'industrie sidérurgique, évidemment en Lorraine. Alors c'est extrêmement intéressant, notamment par ces deux titres, parce que entre cette époque-là, dans les années 80, il y a eu ce qu'on a appelé la désindustrialisation et la classe ouvrière, dont elle évoque les derniers jours, on n'en parle plus, elle a disparu. C'est pour ça que ce titre-là, Les derniers jours de la classe ouvrière, est emblématique. De même que extension du domaine de la lutte, il y a ce mot qui est dans une extension. Mai 68 est passé, on n'en parle plus, on est vers d'autres préoccupations. Et trouver un titre qui est comme ça, qui est volontairement provocateur, j'ai trouvé que c'était assez étonnant. Et donc c'est pour ça que ces deux titres-là et ces deux livres-là me plaisent beaucoup. Alors, quelques autres livres qui me plaisent beaucoup, et dont vous avez d'ailleurs entendu quelques extraits, Elisabeth Fiol, qui a publié La Centrale. Alors, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. La Centrale, c'est l'histoire des ouvriers intérimaires dans les centrales nucléaires. Et là, vous voyez quelqu'un qui, un intérimaire, qui a ramassé une pièce. Il n'aurait jamais dû le faire, une pièce qui était évidemment radioactive. Et comme les intérimaires dans l'industrie... dans l'industrie nucléaire, c'est ce qu'ils appellent eux-mêmes, d'ailleurs, c'est de la chair à neutrons, c'est-à-dire que dès qu'on a passé un certain nombre d'irradiations, on ne peut plus travailler, donc pendant quelques mois, etc., etc. Donc vous voyez un peu quels sont les enjeux. Et ce qui est intéressant, notamment sur le parcours d'Elisabeth Fiol, c'est qu'elle a été consultante dans l'industrie. Donc elle sait de quoi elle parle. Elle sait de quoi elle parle, en même temps, ce n'est pas forcément son sujet sur lequel elle travaillait à cette époque-là, mais elle est assez obsédée par ses histoires. J'ai eu l'occasion d'en discuter de nombreuses fois avec elle, notamment par exemple par Tchernobyl, comment on aurait pu éviter Tchernobyl. Elle, en tant que consultant dans l'industrie, c'était vraiment quelque chose qui l'avait marqué. Et en même temps, elle avait véritablement une préoccupation qui est citoyenne. Et le mot est d'elle. C'est-à-dire que c'est de se dire, nous, notre rôle à nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, par exemple, par rapport à l'industrie nucléaire. Et c'est intéressant ce mot de citoyen parce qu'on sort du cadre politique. Hein, on a toujours une sorte de balancement entre le cadre politique, Marx, etc., etc., des mots qui sont fortement marqués politiquement, comme la classe ouvrière. Et puis là, cette fois-ci, on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus anonymes, ou du moins moins politiques, mais plus citoyennes aussi en même temps. C'est un peu difficile à appréhender, mais j'ai l'impression qu'on a un peu cette espèce de glissement. On a aussi Florence Obna, qui a publié « Le quai d'Ouistreham ». Alors pourquoi j'en parle aussi? C'est parce que le statut de l'auteur à ce moment-là est très intéressant. Ce n'est pas un auteur comme Elisabeth Fiol, ce sont des auteurs qui sont un peu éloignés du monde du travail, sauf qu'Elisabeth Fiol, elle a été consultante dans l'industrie. Cette fois-ci, Florence Obna fait un travail de journaliste. Et elle va jusqu'à occuper une fonction de femme de ménage dans celles qui vont nettoyer les ferries, à la sortie du Ouistreham, juste avant qu'ils repartent leur course vers l'Angleterre. Il y a eu d'ailleurs un film qui a été fait par Emmanuel Carrère à la suite de ce livre-là. Et puis vous avez aussi un livre qui est magnifique, qui est Joseph Pontus. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est vraiment magnifique. À la ligne, feuillet d'usine. Alors je tenais vraiment à parler de lui parce qu'il a publié que ce seul livre, malheureusement, puisqu'il est disparu en 2020. Et c'était vraiment un livre très humain. Cette fois-ci, il met l'humain vraiment au centre des préoccupations. C'est quelque chose c'est un peu comme l'excès l'usine, avec sa dimension qui est extrêmement poétique aussi, avec encore un peu plus d'humain. C'est l'impression que j'en reçois. Voilà, alors je vais vous parler quand même du retour du triptyque, le fameux triptyque, la malédiction. Bah oui, c'est pour vous dire simplement que ça continue. Cette façon de parler des récits du travail, cette représentation du travail, elle continue en fait à nous irriguer. Donc dans la malédiction, c'est-à-dire la dure condition des travailleurs, l'exploitation de l'homme par l'homme, vous avez notre Gérard Mordillat qui a publié « Les vivants et les morts », dont on a fait une série télévisée qui avait eu un grand succès au début des années 2000. Donc je crois que Les vivants et les morts datent de 2003, de mémoire. Vous avez aussi, toujours dans la malédiction du travailleur, donc vous avez Jean-Pierre Levaret qui a publié plusieurs livres, dont par exemple Putain d'usine, en 2004. Et vous avez ici un livre qui s'appelle Berline de Céline Rigui qui vient de paraître à la rentrée donc 2022, la rentrée littéraire donc de septembre. Et j'ai tenu à le citer parce que Céline Rigui, comme son nom l'indique, est un peu italienne, elle est un petit peu lorraine, voire même beaucoup, et je trouve vraiment dans son écriture des ponts entre le livre d'Aurélie Filippetti et le sien. Le sien va raconter en fait une histoire qui s'est passée dans l'entourage proche de sa famille, de quelqu'un qui a été en Lorraine pris dans un éboulement d'une mine et donc coincé sous une berline pendant plusieurs jours. Donc c'est pour ça que le titre s'appelle Berline. Et je tenais aussi à le citer, c'est pour dire que en fait cette littérature du travail continue à produire des récits. Et en discutant avec Céline Rigui, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors du Salon du Livre de Nancy, eh bien, je me suis aperçu que on a besoin de pouvoir enquêter, de pouvoir continuer à trouver des sources d'inspiration et des sources très concrètes pour pouvoir en parler. Et puis enfin, je voulais parler quand même d'un livre de cadre aussi, Laurent Quintraud, Marge Brute. Alors, pour deux raisons. D'abord parce que là, cette fois-ci, on est vraiment dans la malédiction, même dans la structure du texte, puisque le texte est organisé en cercle. encercle un peu comme dans l'enfer de Dante. Donc cette fois-ci, on est dans l'enfer du travailleur, sauf que le travailleur, cette fois-ci, on n'est plus dans le domaine de l'industrie, on est dans le domaine des cadres. Et donc ça se passe dans une réunion de cadres, et il y a évidemment plusieurs cercles qui vont amener progressivement, en quelque sorte, les réflexions des protagonistes vers une sorte d'enfer. Et puis aussi, Laurent Quintraud, j'ai appris beaucoup à le connaître, notamment, je vois que Claire est arrivée aussi, Claire le connaît bien aussi, à travers un projet qui s'appelle « Écrire le travail et qui a eu lieu avec l'Académie de Versailles, où on fait écrire sur le travail des jeunes lycéens, ça va jusqu'aux classes, ou des jeunes de lycéens, d'ailleurs de classes professionnelles, sur ce travail-là. Et donc Laurent et moi, on s'est investis dans des ateliers d'écriture et aussi dans ce projet qui nous parle beaucoup. Voilà. Et puis je voulais vous parler aussi, évidemment, du pendant. Donc on avait parlé cette fois-ci de la bénédiction, le pendant, c'était la malédiction, la rédemption. J'ai commencé par la malédiction. Suit évidemment cette représentation qui demeure, la bénédiction ou la rédemption, et on ira tous évidemment au paradis des travailleurs. Et là, eh bien, vous avez entendu Mélisse de Kerangal, Naissance d'un pont. Cette fois-ci, on est plus tourné vers la bénédiction ou vers la rédemption. Pourquoi ? Parce qu'on est proche de ce que disait d'ailleurs Diderot. D'ailleurs, le héros, l'ingénieur, s'appelle Diderot. Elle a choisi comme nom de son personnage principal, Diderot. Donc c'est quand même un signe fort. Et on est cette fois-ci dans cette œuvre humaine. C'est-à-dire on construit quelque chose où on s'affranchit en quelque sorte de... on trouve que tout est bien dans le travail. C'est-à-dire que voilà, on va fabriquer une œuvre collective. D'ailleurs, il le dit très bien, Diderot, dans son extrait. C'est ça qui lui plaît, en quelque sorte. C'est cette œuvre collective qu'on va bâtir. Elle a écrit aussi « Réparer les vivants ». Donc « Réparer les vivants », c'est pareil. C'est un livre qu'on pourrait assimiler aussi à une épopée du travail, puisque c'est un jeune surfeur qui décède, qui est en parfait état, et on va prélever ses organes pour faire, évidemment, donc ça, on va parler cette fois-ci de transplantation cardiaque, etc. Et donc on est dans l'œuvre humaine, c'est-à-dire toute la technologie médicale qu'on peut magnifier, donc c'est-à-dire toute cette part la plus noble du travail que l'on va mettre au service des autres. Elle a écrit aussi un autre livre qui s'appelle par exemple Un chemin de table. Cette fois-ci, on est radicalement différent. Je vais d'ailleurs mettre aussi l'autre livre parce qu'il va y avoir aussi un rapport aussi avec, puisqu'on est cette fois-ci dans le domaine plus léger de la cuisine. Mais pourquoi je me suis acharné tant chez Maëlys de Kerangal ? C'est parce qu'elle présente une vision véritablement optimiste du travail, on pourrait dire, au détriment presque de ce qui peut, enfin des à côté un peu plus concrets du travail. C'est-à-dire que quand vous regardez Naissance d'un pont, tous les protagonistes de Naissance d'un pont travaillent comme des fous. Hein. Il n'y a pas de temps mort, rien du tout. Hein. Gérard Mordilla, là, il ferait des bons comme ça. Hein, c'est alto cadence infernale. Hein. Quand vous lisez un livre de Mélisse de Kerangal, quand vous regardez Réparer les vivants, ça, voilà, c'est les chirurgiens, celui qui transporte. Voilà, on est dans une mécanique parfaitement huilée. Il n'y a aucun, si vous préférez, l'ambulance qui va apporter le cœur dans l'hôpital, là où on l'attend, ne tombera jamais en panne. Dans Naissance d'un pont, on n'attend pas une livraison de béton. Tout arrive comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas d'aléa. Tout est parfaitement construit, tout est parfaitement huilé. C'est un petit peu l'envers de la médaille, si vous préférez. On est dans la bénédiction, mais tout vous tombe dessus un peu comme par la grâce divine. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Voilà, tout se déroule très bien. On est dans un monde parfait, presque. Et dans Un chemin de table, c'est parfait aussi. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un chef cuisinier, et tout se passe très bien, il réussit. Il réussit tout le temps. Il est toujours dans la réussite. Donc c'est très bien. On lui souhaite d'ailleurs de continuer d'aller loin. Et Marine Diaye a écrit aussi un livre qui peut se rapprocher d'ailleurs d'un chemin de table, c'est Sur la chef, c'est le roman d'une cuisinière. Et cette fois-ci, elle pousse encore un peu plus le regard vers la bénédiction, puisque cette chef est presque atteinte d'une sorte d'un talent divin de cuisinier. Et d'ailleurs, le livre est raconté par un de ses disciples, c'est-à-dire un des cuisiniers, qui est narrateur, et qui va raconter, dès les premières pages, d'ailleurs c'est dit, je voulais raconter la vie de la chef comme on raconte une vie de saint. Vous voyez, ça va très loin. Par contre, n'essayez pas de chercher comment elle fait pour manager ses équipes, est-ce qu'elle a des problèmes d'approvisionnement, comment elle fait pour faire sa comptabilité dans son restaurant. Tout se passe très bien, hein. Ça vous n'en entendez pas parler. Par contre, les poivrons en vinaigrette et tout ça, ça c'est magnifié, c'est sublimé, c'est très bien. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que les représentations du travail, on peut en avoir des millions et des milliers, mais toutes, à chaque fois, elles se relient un petit peu, soit du côté un petit peu malédiction, c'est-à-dire on va parler de la souffrance au travail, on va parler de choses qui sont plus tournées vers la souffrance des travailleurs, ou alors on va arriver dans un autre côté qui sera beaucoup plus optimiste, au risque d'en oublier certains pans. Voilà. Et donc demain, c'est presque une autre histoire, mais qui est intéressante parce que comment on va parler des récits de demain, eh ben, ça va être justement le prochain défi, parce que là on vient de vivre quand même une pandémie, on vient de vivre à la suite de ça des événements qui ont été très rapides, qu'on n'a pas eu le temps encore d'appréhender, un retour du télétravail qui est arrivé, ou du moins un balancier, on ne sait pas trop ce que ça va encore donner, des vagues de démissions, soi-disant une sorte d'emploi, enfin l'emploi qui revient, donc on ne sait pas trop où on va. Et donc je ne doute pas que, bien sûr, ça fera le bonheur de certains écrivains. Alors par contre, pour moi, demain, ben, je ne sais pas trop où est-ce que ça va aller. Par contre, je vous remercie de votre attention.